Et bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers mars 1895. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est pas important. Ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière d'un vieux routier du cinéma américain, John Sturges, né le 3 janvier 1911 à Oak Park, c'est dans l'Illinois, je vous l'apprends sans doute. John Sturges aura eu une carrière assez fournie, et dans cette carrière assez fournie, eh bien, il y a un highlight, comme on dit, et alors, musicalement, je suis sûr que vous allez le reconnaître, même si on n'est pas dans l'ordre chronologique, on va l'écouter quand même tout de suite, ça. La musique de western, de toutes les musiques de western, c'est l'immense, le grand, l'incomparable Elmer Bernstein. Et c'est évidemment, vous l'avez reconnu, j'espère quand même, Les Sept Mercenaires, un film de John Sturges tourné en 1960 avec dans les rôles principaux que du gros, que du bon, Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, et oui, Horst Buchholz, Charles Bronson, mais oui, Robert Vaughn, etc., etc. Bon, il y a très très peu de filles, hein, mais il y a quand même Sept Mercenaires, donc ça ne laisse pas beaucoup de place. Les Sept Mercenaires qui fut, avec La Grande Évasion, nous y reviendrons peut-être, les deux plus gros succès de John Sturges, notre héros du jour, même si, eh bien, il faut le rappeler, Les Sept Mercenaires, ce n'est rien d'autre, si l'on veut, que le remake d'un film japonais tourné en 1954 par Akira Kurosawa et qui lui s'appelait Les Sept Samouraïs. Peut-être vous l'auriez deviné. En tout cas, en 1960, sa carrière avait commencé bien plus tôt. Ce fut pour John Sturges une sorte de pinacle, de sommet. Les Sept Mercenaires, on aura plusieurs suites, beaucoup d'imitations, etc., etc. Mais on ne va pas se concentrer sur elle, on va se concentrer donc sur John Sturges, né en 1911, comme je vous l'ai dit, et qui, à l'âge de 21 ans, entre à la RKO, où, comme beaucoup de réalisateurs américains, eh bien, elle fait un peu tout, voire n'importe quoi, assistant décorateur, assistant monteur, assistant producer, dit ma petite fiche, notamment du grand David Hall Selznick, mais oui, celui d'Autant en emporte le vent. 1932, eh bien, ça nous mène rapidement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où John Sturges fait son service en montant des films d'instruction et il tourne son premier long métrage en 1946, ça s'appelle The Man Who Dared, l'homme qui osa en français, mais que je sache, ça n'a jamais été sorti en France et j'avoue bien sûr que je ne l'ai pas vu. Dans les années qui suivent, eh bien, comme beaucoup aussi de réalisateurs de l'époque, il aligne des films d'aventure, des westerns, etc. etc. J'avoue que les uns comme les autres me sont largement inconnus, donc on va en venir à 1954, tout d'un coup, c'est-à-dire presque 10 ans plus tard, avec un film tourné qui est une sorte de western contemporain, qui s'appelle « Un homme est passé » en français, « Bad Day at Black Rock », c'est-à-dire « Une mauvaise journée à Black Rock », vous l'auriez compris, un film qui met en vedette dans les rôles principaux Spencer Tracy, Robert Ryan et Anne Francis. Une histoire assez étonnante où Spencer Tracy, il l'aura fait à plusieurs reprises, eh bien, est un homme solitaire, seul contre tous, là encore une figure classique du film américain. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film, elle est signée d'André Prévin. Un homme est passé, mais dans Matt Cannot Second. La très dramatique musique d'André Prévin pour un extrait de la bande originale d'Un homme est passé, un film de John Sturges tourné en 1955 avec Spencer Tracy dans le rôle principal. Spencer Tracy qui en fait détestait le personnage mais qui avait accepté pour d'obscures raisons de production, un homme manchot qui débarque dans une petite ville où tout le monde lui est immédiatement hostile pour des raisons qu'on finira par comprendre, mais si jamais vous avez l'occasion de voir le film, je ne veux certes pas en divulgâcher l'intrigue. Et ma petite fiche qui ne ment jamais, je vous le rappelle, dit qu'en cours de tournage, eh bien, Spencer Tracy, qui, semble-t-il, n'avait jamais tourné encore avec lui, fut séduit par la rigueur de John Sturges, et il fit bien, puisqu'il fut nommé à l'Oscar pour ce rôle. C'était la cinquième fois en même temps, s'agissant de Spencer Tracy. Il ne l'obtint pas, mais il obtint cette même année, 1955, le Grand Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, et tout ça contribuant, bien évidemment, à faire de John Sturges lui-même un réalisateur incontournable, puisqu'il pouvait amener ses acteurs, ses actrices jusqu'à l'Oscar, ce qui est quand même un gage de qualité et de sécurité. On vit toujours en 1955 la Vénus des Mers Chaudes, donc vous voyez, pas grand-chose à voir. Et puis en 1956, coup de foudre, un retour, un western qui a ses fans un peu confidentiels. Et en 1957, un autre western qui est pratiquement aussi iconique que Les Sept Mercenaires, par lesquels nous avons débuté cette émission, mais bon, je ne vais pas refaire une deuxième fois le coup du suspense. Ce western, il s'appelle Règlement de compte à hockey choral, et c'est une nouvelle variation, une énième variation sur la fameuse histoire de Doc Holliday, de Wyatt Earp et de Dodge City. Wyatt Earp est interprété dans le film, excusez du peu, par Burt Lancaster, tandis que Doc Holliday l'est par Kirk Douglas. Il y a aussi la belle Rhonda Fleming à leur côté. On voit même quelques méchants qui ensuite feront leur chemin vers un sorte de vedettariat, Dennis Hopper, Lee Van Cleef et quelques autres. Et la musique du film, eh bien, elle est signée de Dimitri Tiomkin. Et vous pouvez déjà commencer à siffler. Moi-même, je vais le faire dans 24 notes secondes.
And make their final stand. Okay, Corral. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. OK Corral. OK Corral. There they lay side by side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral. Gunfight at OK Corral. Thank you.
If the Lord is my friend, we'll meet at the end, comme c'est vrai, un extrait, enfin le générique, vous l'auriez compris, de la bande originale de Règlement de compte à Hockey Choral, un film de John Sturges tourné en 1957, et c'était Frankie Lane. Alors ça par contre, je suis impardonnable d'avoir oublié qui vous interprétait cette petite merveille. J'adore tout, j'adore le monsieur qui siffle, et j'adore les chœurs derrière la voix de Frankie Lane qui font ta 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 ta, ou ce genre de choses. Bref, un grand moment signé Dimitri Tiomkin, qui à l'époque était le maître du genre. On lui doit le même genre de chansons pour Les Canons de Navarone et bien sûr pour Alamo, peut-être le film le plus célèbre du Bleu de l'été qu'on aura déjà écouté dans 24 notes secondes. En tout cas, Règlement de compte à Hockey Choral, qui donc, je le disais, était la nième version de l'histoire de la gunfight entre Doc Holliday, Wyatt Earp et quelques autres. La plus célèbre version, avant peut-être celle de John Sturges, eh bien c'était celle de John Ford, tourné en 1946, ça s'appelle My Darling Clementine en anglais. On y retrouvait Henry Fonda dans le rôle de Earp, Victor Mature dans le rôle d'Holliday. Je ne peux résister à vous faire part de cette réplique culte de ce film qui m'est toujours resté. On voyait à un moment Henry Fonda qui s'approchait d'un barman et qui lui disait, je ne sais plus comment s'appelait le barman, Hector, est-ce que tu as déjà été amoureux? Et Hector de répondre, non, j'ai toujours été barman. Ça, c'est du dialogue. Après Règlement de compte à Hockey Choral, eh bien, on eut le dernier train de Gun Hill 1959 avec à nouveau Sturges à la réalisation, à peu près la même équipe, Dimitri Tiomkin bien sûr, mais c'était Anthony Quinn qui était en lieu et place de Kirk Douglas. Après ce Règlement de compte à Hockey Choral, qui fut donc un très très gros succès, eh bien, en 1958, John Sturges eut l'occasion de collaborer peut-être avec quelque chose d'un peu plus, haut de gamme, une adaptation d'une nouvelle, on dirait plutôt une novella en anglais, même si le terme n'est pas très français, c'est-à-dire une nouvelle longue ou un roman court, comme vous voulez, d'Ernest Hemingway lui-même, qui s'appelait Le vieil homme et la mer. Alors je pense que l'histoire, elle est bien connue, c'est la lutte entre un pauvre pêcheur cubain et un énorme espadon argenté. Alors on se dit que ça va pas faire un très très grand film, mais si en fait, puisque le vieux cubain est interprété, évidemment c'est un film américain, par Spencer Tracy déjà cité, et que pour une réalisation qui était co-signée de John Sturges et Fred Zinman, j'y reviendrai peut-être après en avoir écouté un extrait de la bande originale, et bien pour l'occasion, Dimitri Tiomkin obtint l'Oscar, et que là encore, eh bien, Spencer Tracy aurait pu obtenir l'Oscar, mais ne l'obtint pas plus. Voilà, j'en dirai un petit peu plus après, mais on écoute un extrait de cette bande originale, The Old Man and the Sea, Le vieil homme et la mer, Dimitri Tiomkin, 24 notes secondes.
Thank you.
Dimitri Tiomkin, c'est lui, obtint l'Oscar de la meilleure musique de film pour cette partition, Le vieil homme et la mère, John Sturges, 1958. En fait, il faudrait dire, ce que ma petite fiche ne fait pas, Fred Zinnemann et John Sturges, puisque sans entrer dans les détails trop, eh bien, le tournage du film fut fort compliqué. Il fut commencé par Fred Zinnemann, notamment en extérieur, mais des désaccords entre le réalisateur, qui avait son petit caractère, et la production firent qu'il fut remercié, comme l'on dit, c'est-à-dire en fait licencié, et que c'est John Sturges qui le remplaça, John Sturges qui attendit en vain que Hemingway lui-même, qui habitait à Cuba à cette époque, on s'en souvient peut-être, lui ramène un espadon vivant. Et en fait, d'espadon vivant, ben, c'est comme dans Les Dents de la Mer, on prit un espadon en plastique, d'ailleurs d'un effet, à vrai dire, assez peu réussi à l'écran. Le film, qui coûta fort cher du fait de tous ses retards, fut un échec commercial. Seul Dimitri Tiomkin tira son épingle du jeu, puisque, on l'a dit, Spencer Tracy n'obtint pas l'Oscar quant à Hemingway, une fois de plus, puisque ce n'était pas la première fois que son œuvre était adaptée à l'écran, eh bien, il fut mécontent. Je pense que l'homme l'était de naissance, qui n'était sans doute pas le cas de John Sturges, qui poursuivit ensuite, eh bien, ma foi, une carrière fort bienvenue, puisqu'on eut, je l'ai déjà dit, Le dernier train de Gun Hill en 1959, les fameux sept mercenaires, entendu en frontispice en 1960, et d'autres films moins connus, alors que peut-être ils mériteraient une plus grande attention. On vit en 1965 The Satin Bug, Station 3 ultra secret en français. À l'époque, on traduisait encore avec une certaine inventivité les titres anglais en français, avec une musique de Jerry Goldsmith qui était une très très grande réussite. En 1967, on vit Hour of the Gun, toujours musique de Jerry Goldsmith, je me demande pourquoi je ne l'ai pas sélectionné celle-là, 7 secondes en enfer, qui était une sorte de codicille à règlement de compte à Hockey Choral, puisque le film commençait par la gunfight déjà évoquée, qui durait donc 7 secondes, c'est vous dire l'importance de la chose, et puis après, en fait, on voyait le destin des survivants, et ma foi, l'ensemble était improbable, mais très réussi. Et puis, on peut aussi citer deux films proches de la science-fiction, en 1968, Destination Zebra, Station Polaire, et en 1969, j'avoue que j'en garde un grand souvenir d'enfant, ben oui, Les Naufragés de l'espace, Marooned, qui racontait donc l'histoire d'une capsule spatiale en déroute dans l'espace, et ce qui m'avait frappé à l'époque dans le film, peut-être le revoir m'échauderait, eh bien c'était le réalisme de la chose, c'est-à-dire que John Sturges n'avait pas du tout essayé de tirer la chose vers le spectaculaire façon Star Wars ou autre, mais au contraire, on restait vraiment prisonnier de cette capsule spatiale, et je peux vous dire que ça faisait un effet des plus déroutants. On va écouter un extrait d'un film de guerre, puisque John Sturges en aura tourné quelques-uns, un film tourné en 1976, un scénario de Tom Mankiewicz, un roman de Jack Higgins à l'origine, Michael Caine, Sir Michael Caine, et Donald Sutherland, très regretté, Robert Duvall et quelques autres dans les rôles principaux. Une histoire assez étonnante où l'on voyait une troupe d'Allemands débarquer en Angleterre avec comme objectif d'enlever Winston Churchill, rien que ça. Bon, je ne pense pas divulgâcher grand-chose en disant que ça ne finissait pas par réussir, mais en tout cas, ça permettait à Lalo Schifrin, plus connu pour les partitions jazzy ou pour, évidemment, le pauvre Mission Impossible, bien d'écrire une partition symphonique étonnante, pardonnez-moi, mais de grande tenue. On écoute un extrait de la chose. En anglais, ça s'appelle « The Eagle Has Landed », c'est-à-dire « L'aigle a atterri », et en français, « L'aigle s'est envolé ». Allez comprendre pourquoi, mais dans 24 notes, seconde.
Thank you.
Voilà la belle partition de Lalo Schifrin pour L'Aigle s'est envolé, John Sturges 1976. John Sturges nous a quittés le 18 août 1992 après une carrière, ma foi, bien remplie au service du film d'action. Et comme il nous reste une ou deux minutes, allez, on va pas se priver de ce plaisir, on va se refaire un petit coup de cette messe en air. Mais c'est maintenant que je vous dis au revoir, à bientôt, see you, bye bye.